L'Europe d'aujourd'hui, face à la crise économique, face aux défis de l'immigration et de l'intégration de ces nouveaux arrivants, l'Europe prête à se tourner vers le protectionnisme au risque de nier un de ses principes fondateurs, l'union économique. L'Europe qui se ferme de plus en plus sur elle-même alors qu'une de ses conquêtes a été la libre circulation des personnes et des biens. Quelle place et quel rôle pour les chrétiens dans cette Europe? On en parle avec l'archevêque émérite de Lille, président de la conférence des commissions justice et paix en Europe, Monseigneur de Foy, de passage à Rome ces jours derniers.
Un des problèmes que nous avons rencontrés, bien sûr, c'est le problème des migrations. C'est la situation que nous avons rencontrée à Malte, où des jeunes venant de Libye avaient des jeunes et des familles sur des radeaux, avaient passé 4 jours au soleil sans rien boire ni manger. Ils étaient arrivés, ils sont abrités sous des tentes là-bas et travaillent parce qu'ils ont du travail, mais évidemment un travail pas protégé, illégal, etc. Je vois, nous en France, nous sommes habitués aux migrations qui sont ces gens de maghrébins. Alors il y a toute une politique d'éviter qu'ils soient trop nombreux, ou encore il y a la situation de ceux qui sont là. Par exemple, j'ai bien connu ça puisque j'étais archevêque à Lille, j'étais auprès de Sangatte et de ceux qui attendaient, et qui attendent encore d'ailleurs dans les dunes là-bas, dans les situations innommables, de trouver un moyen illégal pour passer en Angleterre, parce que c'est l'image de l'Eldorado. J'étais récemment avec un certain nombre d'évêques africains et européens, et nous avons évoqué la situation de l'Afrique, où malgré tout, il y a une sorte de fuite permanente des cerveaux. Alors ces questions sont importantes pour notre époque, mais ce que nous voulons au moins éviter, c'est le minimum, c'est que les chrétiens d'Europe s'enferment dans l'indifférence, ne pensant qu'à leurs propres difficultés.
Alors justement, la difficulté aujourd'hui face à ce qui est devenu un problème de l'immigration, c'est aussi de répondre par des politiques. Alors soit ce sont des politiques qui sont jugées trop dures, soit on dit on ne peut pas accueillir tout le monde. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'on peut trouver un juste milieu? Et quel serait-il? Sur quoi se baserait-il ce juste milieu?
On dit qu'on ne peut pas accueillir la misère du monde, toute la misère du monde. Enfin, c'est peut-être d'abord important de se rendre compte qu'il y a de la misère. Et je dirais, si on n'a pas ce souci-là, nous, chrétiens, qui l'aura. Ceci étant, je crois qu'effectivement, il y a à la fois des aides ponctuelles qui sont de l'ordre, je dirais, presque de l'assistance. Et en même temps, des grandes politiques qui provoquent, et ça, je sens ça très très bien, depuis que le mur a été abattu dans un certain nombre d'endroits, on se rend compte que la liberté existe, mais la liberté libérale, c'est-à-dire qu'il y a des gens de plus en plus riches et des gens qui sont très très riches, mais il y a aussi des gens qui sont de plus en plus pauvres. Il n'y a plus l'aide de l'État et ce correctif des inégalités qui au moins faisait commencer une certaine solidarité, ce qui fait qu'un certain nombre sont tout à fait presque en train de regretter le totalitarisme d'autrefois, parce qu'au moins il permettait de ne pas mourir de faim. Alors on se trouve devant ce que la crise a révélé, c'est-à-dire le manque de régulation, de droit sur le plan économique, et que la conséquence en est inéluctablement le fait que des gens sont absolument parmi les perdants de l'évolution des marchés.
Alors, quel message faire passer pour essayer de faire changer les mentalités, autant au niveau politique qu'au niveau social? Comment est-ce qu'il faut plus s'impliquer? Est-ce que l'Église doit être plus impliquée sur le terrain?
Alors d'abord, il faut bien dire que nous ne sommes pas devant un terrain qui serait vide. Nous ne sommes pas devant un désert de bonne volonté. On se rend compte que les réactions de générosité, voire de partage, sont peut-être plus fréquente qu'on ne pense. La société contemporaine, qui est souvent très individualiste dans sa vision du monde, a gardé du cœur. Et c'est pour ça le slogan que je m'ai lancé durant ma présidence, c'est donner du cœur à l'Europe. C'est-à-dire faire que cette Europe ne soit pas une Europe de privilégiés fermée sur leur capital qui diminue, mais qu'elle soit capable justement de penser solidaire, de choisir d'être solidaire, de vouloir être solidaire, malgré peut-être ce libéralisme économique sans contrainte qui lui-même arrive à détruire des sociétés entières.
Votre slogan « Donner du cœur à l'Europe », est-ce que ça peut être aussi une orientation, un slogan à l'approche des prochaines élections européennes qui auront lieu en juin?
Alors là, vous touchez un point qui me préoccupe beaucoup, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a des élections européennes, en tout cas en France, le taux d'abstention est absolument scandaleux. Et qu'en fait, je voudrais faire comprendre du plus profond de moi-même que s'engager pour l'Europe, voter pour l'Europe, assister, donner de l'importance à nos parlementaires en Europe, c'est tout simplement exercer la solidarité. Tant que nous déléguons des hommes politiques uniquement pour gérer nos petits intérêts égoïstes, ça, nous ne faisons que simplement que conforter justement cet égoïsme. Là, je crois que voter pour l'Europe, s'intéresser à l'Europe, s'informer sur le devenir de l'Europe, c'est simplement assurer notre avenir et l'assurer comme un avenir solidaire et non pas un avenir solitaire.
Et 50 ans enfin après sa création, l'Union européenne a toujours son sens selon vous. Quel est justement ce sens, cet acquis que l'on peut justement communiquer aux nouvelles générations?
Vous posez une grande question et une vraie question. C'est-à-dire que l'Europe a été fondée fondamentalement pour lutter contre les guerres. Hein. Au lendemain, en 1950, au mois de mai, on a commencé par la Communauté européenne du charbon et de l'acier, etc. Il y avait un objectif qui était celui d'éviter le retour à la guerre, en mettant ensemble les compétences pour être constructeur, pour être productif, et non pas pour faire des chars d'assaut. La situation maintenant, qu'il n'y a même plus, je dirais, le rapport Est-Ouest agressif que nous avons connu, c'est de savoir, l'Europe, pourquoi faire? Pourquoi faire une Europe à l'heure de la mondialisation? C'est une question. Il faut, à ce moment-là, que l'Europe ne soit pas simplement, je dirais, défensive, qu'elle soit aussi prospective, qu'elle soit créative, qu'elle soit une solidarité que des hommes se donnent pour gérer, d'une part, leurs propres intérêts de façon solidaire, comme on vient de le dire, mais en même temps que cette Europe se situe dans le monde en partenaire des grands ensembles, que ce soit les États-Unis, que ce soit bien sûr le pôle précédemment soviétique, mais en même temps, par rapport aux nouveaux rendez-vous qui seront donnés par la Chine, et le Pakistan et l'Inde, mais aussi, bien sûr, tous les problèmes nouveaux qui s'opposent au Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient attend que nous soyons des intermédiaires et qu'on ne soit pas simplement des prolongements des blocs anciens. Donc je crois que vouloir l'Europe la faire et par là même l'engager politiquement comme une responsabilité internationale, c'est quelque chose de nécessaire pour notre avenir. Sinon, l'Europe sera un ensemble de vieux pays qui seront le jouet d'intérêts macroéconomiques.